C'est le moment de se retrousser les manches et moi je vais le faire. Premier commentaire de Michel Barnier après sa nomination à Matignon. Le Premier ministre affirme que son gouvernement ne sera pas seulement de droite. Sur le territoire, le haut-commissaire prolonge les mesures qui encadrent actuellement la vente d'alcool jusqu'au 15 septembre. L'interdiction de rassemblement en vigueur à Nouméa est étendue aux communes de l'agglomération. Toujours très peu de passagers à bord des bus rail 4 jours après la reprise. D'autres lignes vont toutefois être remises en service à partir de lundi. La journée porte ouverte à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, c'est aujourd'hui à Nouville et à Conné. Elle s'adresse principalement aux futurs bacheliers. Le sport et pas de médaille d'or aujourd'hui pour le camp français aux Jeux Paralympiques de Paris. Pas de podium au lancer du poids pour le Calédonien Kavakava, la finale du lancer du poids, mais il signe sa meilleure performance de la saison. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Info Week-end, d'actualité marquée bien sûr par la toute première intervention du Premier ministre après sa nomination par le Président de la République. À 5h ce matin pour nous, Michel Barnier était l'invité du journal de 20h de TF1 et il a d'abord été interrogé par Anne-Claire Coudray sur la difficulté de la tâche qui l'attend.
Je sais que c'est difficile en raison de cette situation inédite au sein de l'Assemblée nationale. J'oublie pas le rôle du Sénat aussi, qui est très important. Je sais que c'est difficile, mais moi, je me suis toujours fait une certaine idée de mon pays et de la France. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Et je pense que c'est le moment que chacun, à sa place, retrousse les manches. Et moi, je vais le faire.
Fort de sa longue expérience politique et d'une réputation de fin négociateur, Michel Barnier dit vouloir être à l'écoute de tous en respectant toutes les idées. Si le Premier ministre n'a pas encore donné les noms des ministres qui formeront son gouvernement, il a toutefois donné des indications sur le spectre de leur représentation.
Ce ne sera pas seulement un gouvernement de droite, comme je l'entends dire ici ou là. Je n'ai pas besoin de rappeler d'où je viens. Moi, je viens du gaullisme social. Je suis un républicain, humaniste, et fier de m'être engagé derrière le général de Gaulle très, très tôt. Je suis européen aussi, mais pas n'importe quelle Europe, une Europe utile et concrète. Donc il y aura des gens de ma famille politique, il y aura naturellement des hommes et des femmes de bonne volonté qui appartiennent à la majorité sortante, et puis je ne m'interdis pas de réunir autour de la même table des hommes et des femmes qui ont des compétences. Mais si vous me demandez quel est le critère, oui, des gens de gauche, je n'ai jamais été sectaire. Et donc je pense qu'il faut ouvrir la porte, j'ai mes convictions, mais je n'ai jamais été sectaire, donc il faut ouvrir la porte et ouvrir la table à tous ceux qui le voudront.
Interrogé sur ses rapports avec le Rassemblement National, Michel Barnier s'est dit très éloigné des thèses du parti de Marine Le Pen, qu'il n'a d'ailleurs pas rencontré à ce stade. Et s'il n'exclut pas l'introduction d'une dose de proportionnelle aux élections législatives, il a un discours plutôt ferme sur la question de l'immigration.
Il y a toujours le sentiment que les frontières sont des passoires et que les flux migratoires ne sont pas maîtrisés. Donc nous allons en effet maîtriser les flux migratoires pas avec de l'idéologie, pas avec des discours et des phrases, mais avec des mesures concrètes, des propositions concrètes de mon propre parti, mais il y a eu d'autres propositions un peu partout. Je les écouterai. Personne n'a le monopole des bonnes idées, je veux qu'on traite les problèmes.
Michel Barnier qui dit également vouloir améliorer la réforme des retraites au profit des plus fragiles et qui souhaite dire la vérité sur la nécessité de maîtriser les dépenses publiques. Il faut également retrouver la croissance et pour cela, dit-il, faire confiance aux entrepreneurs.
La croissance, elle vient d'où ? Elle ne tombe pas du ciel, elle ne vient pas de l'administration, elle vient des entreprises, petites, grandes ou moyennes, elle vient des agriculteurs, elle vient des pêcheurs, elle vient de notre commerce extérieur, elle vient du rôle des Français de l'étranger, qui ont 3 millions de Français qui défendent une partie de l'influence française à l'étranger. Donc elle vient de nos départements et de nos régions d'outre-mer, que je connais bien, dont je vais m'occuper. Donc on a plein d'atouts dans ce pays. Il faut être lucide, il faut dire la vérité, je dirai la vérité, même si elle est difficile, parce que la situation est extrêmement grave, mais il y a aussi des raisons d'espérance.
Et quant à ses rapports avec Emmanuel Macron, Michel Barnier affirme qu'il ne s'agit pas d'une cohabitation, mais qu'il a bien l'intention de gouverner. Le chef de l'État lui aurait d'ailleurs laissé toute latitude pour composer son gouvernement. La nomination de Michel Barnier à Matignon qui a été commentée sur le territoire hier soir, vous avez entendu les réactions de Sonia Backès, de Virginie Rufnac ou encore de Nicolas Metzdorf. Réaction également de Christopher Gigès, qui était hier midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence.
Trois bonnes nouvelles, déjà, on a un Premier ministre, parce que ça a commencé à faire long. Ça fait des semaines qu'on discute.
51 jours.
Ça fait 51 jours qu'on discute avec un gouvernement démissionnaire qui a assuré jusqu'au bout les missions de son gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie, puisqu'on était considéré comme une affaire urgente au vu de la situation. Mais de pouvoir discuter maintenant avec un gouvernement de plein exercice qui va permettre d'échanger sur les prochaines lois de finances et sur les prochaines aides pour la Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose d'important. Sur Michel Barnier, moi, je me satisfais que ce soit quelqu'un de droite. Je vais pas le dire trop fort parce que les indépendantistes risque de se braquer si on le dit que c'est quelqu'un de trop bien. Donc je le connais pas personnellement, mais les déclarations sur la Nouvelle-Calédonie, il a l'air de connaître le dossier et c'est quelque chose d'important. Et ensuite, il a été extrêmement valorisé pour son action dans le cadre du Brexit et sa capacité à négocier. Je pense qu'on a aujourd'hui besoin de gens qui sont en capacité de négocier. Donc pour la Nouvelle-Calédonie, ça peut être qu'une bonne chose. Mais déjà qu'on ait un gouvernement et des interlocuteurs, ça sera très bien.
Autre réaction à la nomination de Michel Barnier, celle du président du Rassemblement en Nouvelle-Calédonie, Alcide Ponga.
C'est quelqu'un de notre famille politique. Bon, le président de la République est parti sur, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, le plus petit dénominateur commun ou le moins gros problème qu'il avait. Et donc il a certainement pris quelqu'un des Républicains là-dessus. Si M. Barnier arrive à composer un gouvernement assez rapidement là-dessus, c'est important, même très important pour la Nouvelle-Calédonie. Hein. On va devoir solliciter la France comme on l'a fait depuis le début. Il va y avoir les préparations budgétaires en octobre. Nous, les élus calédoniens, on fera aussi notre part de travail là-dessus pour que le nouveau gouvernement puisse aider la Calédonie comme on l'attend tous.
La nomination à Matignon de Michel Barnier ne suscite d'ailleurs pas de blocage a priori du côté du chef du groupe UCFLNKC nationaliste au Congrès, Pierre-Chanel Tutu-Gourou.
Le président Macron n'a pas fait le choix d'aller dans le sens des résultats des législatives. Il a fait le choix de choisir un Premier ministre issu de la droite. À part ça, le profil lui-même, quatre mots essentiels à la lecture du parcours de M. Barnier, c'est l'expérience, c'est le consensus, c'est la reconstruction et pourquoi pas les réformes. Pour nous, pour notre revendication d'accession à la pleine souveraineté, on attend de voir la composition du gouvernement au complet. On attendra les premières missions qu'on va aborder ensemble.
Pierre-Chanel Tutu-Gourou, le chef du groupe UCFLNKC nationaliste au Congrès, qui réagissait donc à la nomination de Michel Barnier.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à notre question d'hier. 70% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS pensent qu'il ne va pas être possible de réunir les partenaires politiques calédoniens à Paris fin septembre ou début octobre. Comme le souhaite le président de la République, ils sont 30% à penser que cela sera possible. Merci pour votre participation et rendez-vous lundi pour une nouvelle question du jour. C'est donc Christopher Gégès, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui était hier midi l'invité du magazine Transparence. Il a été interrogé sur le PS2R, le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction préparé par le gouvernement, et plus globalement sur l'actualité calédonienne. Il a notamment confirmé que c'est Lori Oumouni qui succédera à Vaïmoua Mouliava au sein du gouvernement. Une interview de Christopher Gégès qui sera rediffusée dans son intégralité demain soir, juste après notre édition de 17h45. Vous pouvez aussi la retrouver, bien sûr, en audio et vidéo sur notre site internet. Et ce matin, à partir de 11h, nous vous proposons la rediffusion du club politique de Radio Rythme Bleu. Au sommaire, bien sûr, la nomination du Premier ministre, Michel Barnier. Les consultants du club sont également revenus largement sur l'actualité calédonienne marquée par la réunion le week-end dernier du 43e congrès du FLNKS. Ils ont évoqué l'entretien que Sonia Backès a eu avec le président de la République et les réactions à l'agression à l'île des Pins de deux élus de la province sud, Virginie Ruffetin et Laura Vendégout. Ils ont enfin commenté la demande de création d'une commission d'enquête du congrès de la Nouvelle-Calédonie sur les liens avec l'Azerbaïdjan, un club politique disponible également en réécoute sur le site de Radio Rythme Bleu. 7h09, dans un instant, la suite de l'actualité.
Michel-Ange ne sera plus jamais le même. Nouméa Pas Cher fait sa très grande ouverture sur plus de 1000 mètres carrés. Du pur shopping plaisir avec une promesse, les meilleurs prix toute l'année. Rendez-vous rue Glacère, parking Michel-Ange. Sourire aux lèvres et bras ouverts, on vous attend. Et comme on aime vous faire plaisir, gagnez un voyage pour ciné et une multitude de bons cadeaux à notre grand jeu concours. Voir conditions en magasin.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébigue à Magenta. Entrez par le showroom Mazda.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite du journal avec Bougie
de
Ménage.
Et l'actualité sur le territoire, le haut-commissaire Louis Lefranc a décidé hier de prolonger les mesures qui encadrent actuellement la vente d'alcool. Et ce, jusqu'au 15 septembre. Elle sera donc possible à nouveau la semaine prochaine chez les cavistes et dans les grandes surfaces du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à midi. Le haut-commissariat précise toutefois que ces mesures ne s'appliquent pas dans les communes qui ont fait l'objet de mesures de plus restrictives prises par les commissaires délégués. Par ailleurs, le couvre-feu de 22h à 5h est maintenu jusqu'au 16 septembre au moins et l'interdiction de toute manifestation, rassemblement et cortège qui était en vigueur pour la seule ville de Nouméa jusqu'au 30 septembre prochain, est désormais étendue aux communes de Païta, d'Imbéa et du Mont-d'Or. 90 hectares partis en fumée dans l'incendie de Watom à la fois hier. L'incendie a été fixé en fin d'après-midi par les pompiers. Des maisons et la ferme photovoltaïque ont été un temps menacées, notamment en raison des vents forts sur zone qui ont compliqué le travail des soldats du feu. Écoutez les précisions du capitaine Maël Kerleger, il est commandant des opérations de secours à la fois.
C'est un incendie qui a démarré à 13h30 avec un engin de jardinage apparemment qui est en train de tondre de la pelouse et qui s'est rapidement propagé puisqu'il était poussé par un vent fort sur zone. On remercie les agriculteurs du coin qui sont venus rapidement avec des engins agricoles, bulldozers, tracteurs et autres qui nous ont donné la main pour traiter l'incendie. Là, on est parti pour une longue période de surveillance. Les sapeurs-pompiers sont encore en action afin de maîtriser totalement l'incendie et de stopper tout risque de propagation.
Voilà, un sinistre qui reste donc sous surveillance. Vous l'avez compris, une dizaine de véhicules de pompiers étaient engagés hier pour lutter contre cet incendie, dont 4 véhicules légers. Une fréquentation toujours aussi timide pour les bus rail. 5 jours après la reprise, le nombre de passagers reste faible, voire inexistant dans certains cas. Avant les émeutes, le réseau attirait en moyenne plus de 1000 usagers par jour, 350 000 en moyenne par an. Aujourd'hui, Ludovic Lombard, le directeur du SMTI, se questionne sur un réaménagement du service pour sauvegarder l'entreprise.
On a entre 3 et 28% maximum de fréquentation sur nos lignes. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une personne simplement dans nos autocars et au maximum entre 15 et 20 personnes. Sur des bus de 53 places, c'est assez peu. Donc on se questionne forcément sur le maintien du niveau de service qu'on a aujourd'hui parce qu'on a quasiment tous les jours un aller-retour sur les communes qu'on dessert. Par mesure de sauvegarde, il sera très important de rapidement se questionner sur le maintien de ces niveaux de service parce que le déséquilibre budgétaire va être insurmontable si on maintient ce nombre de services toutes les semaines.
Notez que malgré tout, le réseau de bus rail reprend 3 lignes supplémentaires à partir de lundi. Elles desserviront Canala et Kouaoua au départ de Nouméa, la route territoriale étant enfin dégagée. Le SMTI annonce également la reprise de la ligne Arama-Poum-Koumak, également à partir de lundi.
Vous écoutez Info Week-end, il est 7h13.
Au chapitre des sorties de votre week-end, l'Université de la Nouvelle-Calédonie organise aujourd'hui une journée porte ouverte pour les lycéens et leurs familles. Charlotte Coulson.
Le salon des études supérieures à Nouville n'avait pas pu se tenir fin juillet en raison des événements en cours. Cette journée, organisée également en province nord, sert donc de présentation générale de l'université, comme l'explique le directeur de la communication de l'UNC, Sylvain Raffarartigue.
On a choisi cette formule qui va se dérouler sur le campus de Nouville avec aussi bien sûr les collègues du vice-rectorat qui seront avec nous donc pour présenter l'offre de formation de l'université et faire découvrir l'outil universitaire. Et également, nous, on aura aussi nos collègues du campus de Baco qui animeront un stand d'information sur le centre commercial Théari, toujours le 7 septembre. Et à côté de ça, la formule salon, on va dire, est remplacée par 7 journées portes ouvertes et aussi des présentations dans les lycées. L'UNC viendra dans les lycées qui ont organisé, donc avec le vice-rectorat, des journées spécifiques sur l'orientation. Et il y a aussi une partie Internet qui va être un petit peu plus poussée pour pouvoir présenter toute l'offre d'enseignement supérieur qui est disponible en Nouvelle-Calédonie.
La journée portes ouvertes de l'université, c'est donc de 9h à 15h au campus de Nouville et de 8h à 13h au centre Théari de Conné.
Et dans le reste de l'actualité, Dimbéa propose 2 rendez-vous festifs aujourd'hui sur sa commune.
Avec tout d'abord son marché municipal au parc Fayard de 8h à 13h. Le lieu accueillera en parallèle un espace vide-grenier. Et puis la ville organise un nouveau rendez-vous 100% gratuit, les rendez-vous du samedi de 15h à 17h. Le premier événement se tiendra au Big Up Spot de Coutiot et les Calédoniens Calédoniens pourront s'initier aux jeux de société, aux échecs, mais aussi à la boxe.
Toujours aujourd'hui, la CAPA organise dans ses locaux du Faubourg Blanchot un vide-grenier et son traditionnel loto.
L'occasion pour vous de vous amuser et de faire une bonne action en aidant les personnes âgées. Les précisions de Priscilla Nania-Karawa, la secrétaire de la CAPA.
On a 140 adhérents qui sont là. Maintenant, on a mis en place, le lundi, on a fait des groupes. On essaye de faire plaisir à tout le monde. On ne peut pas fonctionner comme d'habitude, comme on faisait avant les émeutes. Du coup, on essaye et on fait un roulement, en fait. On a toujours nos activités. L'objectif de cette journée, parce que comme on veut offrir aux personnes âgées la fin de l'année un repas, et du coup, ces fonds sera aussi pour eux pour qu'on leur offre un bon repas. Et après, si jamais on a aussi des... Parce qu'on aura aussi des sorties, on essaye de remettre en place les sorties. Ça nous servira aussi pour faire des repas aussi.
Le vide-grenier se déroulera de 7h à midi, puis à partir de 13h pour son loto, dans les locaux de la CAPA au Faubourg Blanchot.
Tout le week-end, l'Art Factory accueille la première édition du Art and Food Market.
Pendant 2 jours, de 10h à 19h, une quarantaine d'exposants seront présents pour proposer ce marché artisanal. Concerts, défilés et dégustations seront au programme.
Et enfin, demain, direction le marché de Mamie à Farino, qui proposera des dégustations du célèbre verre de Bancoule.
Oui, un événement malheureusement revu à la baisse cette année en raison du contexte actuel. Il n'y aura donc pas de fouillage ni de bouffage cette année, uniquement une dégustation prévue à 11h. Tous les stands habituels seront toutefois bien présents de 8h à midi sur la place de la mairie.
L'actualité régionale marquée par la visite du pape François qui est depuis hier soir à Port-Moresby. Il entame une visite officielle aujourd'hui en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Jean-Pierre Zajac.
La première journée du Saint-Père débutera par une visite de courtoisie au gouverneur général et représentant de la couronne d'Angleterre en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sir Bob Dadaï. D'après le Vatican, il rencontrera ensuite les autorités locales, les membres de la société civile et le corps diplomatique. En cours d'après-midi, il recevra les évêques de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles Salomon, ainsi que des diacres, des prêtres, des religieux et religieuses, des séminaristes et des catéchistes. Après avoir reçu le premier ministre papou James Marape à la nonciature apostolique dimanche matin, le pape se rendra au stade John Guise de Port-Moresby, où il célébrera la messe en présence d'environ 40 000 personnes, dont certaines ont marché pendant des semaines pour y assister. À Sydney, Jean-Pierre Jean-Jacques, RRB.
À la une de l'actualité en métropole, la Fondation Abbé Pierre va changer de nom. L'annonce a été faite cette nuit pour nous après 17 nouveaux témoignages qui l'accusent de violences sexuelles. Au total, l'Abbé Pierre, figure emblématique de la lutte contre le mal-logement, est visé par 24 accusations. Louis Salé du service Société d'Europe 1, la Fondation Abbé Pierre ne pouvait plus continuer à porter son nom.
Car la Fondation se dit choquée par la violence et l'extrême gravité de certains de ses nouveaux témoignages. Emmaüs propose aussi de modifier son logo et le lieu de mémoire qui est dédié à l'abbé Pierre à Isteville ferme ses portes en Seine-Maritime. Ces bouleversements ont pour origine donc cette synthèse de 17 nouveaux récits retranscrits par le groupe EGAE, le cabinet chargé depuis le début de l'année de faire la lumière sur les soupçons d'agression sexuelle commises par l'abbé Pierre. Parmi les faits qui viennent d'être recueillis, certains se seraient produits une dizaine d'années seulement avant la mort du prêtre alors qu'il avait 94 ans. D'autres gestes sont rapportés par des femmes mineures au moment des faits. L'une n'était âgée que de 9 ans. Elle raconte, je cite, que l'abbé Pierre lui a demandé la couleur de sa robe, a touché sa poitrine et lui a fait des baisers avec la langue. Certains actes décrits vont très loin. La plupart remontent aux années 60. Des fellations, des masturbations forcées, des rapports sexuels non consentis sont décrits. Le cabinet EGAE insiste sur le travail de vérification des dates et des lieux de ces témoignages pour en certifier la cohérence et dévoile des documents envoyés à l'ordre des Capucins, les supérieurs hiérarchiques de l'abbé Pierre pour les alerter dans les années 2000. Sous la conduite d'Emmaüs International, une commission d'experts indépendants sera constituée prochainement pour comprendre et expliquer les dysfonctionnements qui ont permis à ce prêtre d'agir pendant plus de 50 ans.
Louis Salé du service Société d'Europe 1 notait que la plateforme d'écoute de la Fondation reste ouverte pour recueillir d'autres éventuels témoignages. Et puis le cinquième jour du procès hors norme des viols de Mazan s'achevait cette nuit pour nous. Dominique Pellicot est jugé à Avignon pour avoir drogué sa femme et l'avoir faite violer par des dizaines d'individus recrutés sur Internet. Une journée marquée par la première prise de parole des parties civiles, notamment la fille de la victime et du principal accusé. Celle qui considère son père comme l'un des plus grands criminels sexuels de ces 20 dernières années raconte les sévices qu'il lui a fait subir. La journée a également été marquée par le témoignage des deux belles filles de l'accusé, elles aussi victimes des mêmes agissements. 7h20, dans un instant, toute l'actualité sportive.
Vous rêvez d'une nouvelle cuisine? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Démonter dans ta belle auto pour venir au marché de Farino.
Grand marché de mamie à Farino ce dimanche 8, de 8h à 13h avec une dégustation de verre de Bancoul, cru et cuit, façon mamie Fogliani à 11h et animation musicale. Toujours nos produits habituels, des produits et légumes de saison, charcuterie, vanille, miel, ainsi que des plantes et de l'artisanat local. Pas de navette, parking, près du marché. Alors venez passer un bon moment et de découverte du verre de Bancoul en venant au marché de mamie à Farino ce dimanche 8.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
Info week-end, la suite, et c'est du sport, Gilles Ménage.
Oui, la une du sport, bien sûr, les Jeux paralympiques de Paris.
Les pages spéciales des Jeux paralympiques sur RRB, avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et pas de médaille d'or aujourd'hui pour le camp français. Michael Juneski, on retiendra notamment la finale du lancer du poids avec un Calédonien qui était en lice.
Vitolio Cavacava n'a pas réussi à monter sur le podium, mais il a réalisé sa meilleure performance de la saison, 12,99 m sur cet enchaînement de 6 lancers de 4 kg réglementaires sur 10 minutes et devant 65 000 personnes au Stade de France. Vitolio Cavacava s'est classé à la 6e place, une performance encourageante pour celui qui vise à 24 ans les Jeux de Los Angeles en 2028. Son record personnel est toujours de 13,32 m au poids. Le vainqueur de cette finale est l'Iranien Yassine Khosravi. Il s'est imposé avec un lancer à 15,26 m. Pour le reste des résultats, les Bleus ont décroché 4 médailles aujourd'hui, 3 en cyclisme, notamment des médailles d'argent pour Kevin Lecumf et Heidi Gauguin en course en ligne, du bronze pour le duo Alexandre Loveras et Johan Payos en tandem, du bronze également pour Emeline Pierre, cette fois en paranatation sur l'épreuve du 100 mètres d'eau S10. C'est donc sa deuxième médaille dans ces Jeux paralympiques, on l'écoute.
Je savais que la stratégie ce soir c'était de partir vite et d'assumer la douleur jusqu'à la fin. J'en ai vraiment chez les derniers 15 matchs, je pense que j'avance plus beaucoup. Avec un peu plus de dos, j'arrive à toucher première ou même deuxième, mais aujourd'hui j'en avais rien à faire. L'objectif c'est de partager ça ensemble et on s'est dit que quoi qu'il en était le résultat, on allait kiffer en sortant et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire et pour une fin de carrière, je pense qu'il n'y a pas mieux que...
Voilà les Jeux paralympiques de Paris qui se poursuivent ce week-end. On rappelle également qu'en cécifoot, l'équipe de France est en finale. Elle affrontera demain l'Argentine à partir de 5h. Alors pour le moment, au tableau des médailles, la France est en 6e position. Un total de 65 médailles, dont 17 en or, 24 en argent, 24 en bronze. La Chine reste en tête avec 187 médailles, dont 83 en or, devant le Royaume-Uni et ses 42 titres sur 100 podiums. Les États-Unis sont troisième devant les Pays-Bas et l'Italie.
C'était les pages spéciales des Jeux paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et on passe au football, Mickaël, avec la première journée de la Ligue des Nations.
Et un match France-Italie. Le score est de 3-1 en faveur des Italiens. Après 76 minutes de jeu, les Bleus avaient pourtant ouvert le score dès la première minute grâce à Barcola avant l'égalisation signée à Di Marco à la demi-heure de jeu. Puis, en deuxième période, Fratesi a puni les tricolores d'une nouvelle réalisation à la 51e minute avant que la Squadra Azzurra n'alourdisse encore l'ardoise grâce à Raspadori il y a quelques minutes à peine. Il reste une petite petite vingtaine de minutes à jouer dans cette rencontre France-Italie qui tourne donc pour le moment à l'avantage des Italiens. Et puis notez que de leur côté, les Bleuets, l'équipe de France Espoir, a fait un match nul face à la Slovénie en qualification au prochain Euro de leur catégorie d'âge. Score final, un but partout.
Du tennis avec les demi-finales de l'US Open.
Dans le tableau, messieurs, l'Italien Yannick Sinner affronte en ce moment même le Britannique Jack Draper. Ce sera suivi d'un duel 100% américain entre Taylor Fritz et Frances Tiafoe. Chez les dames, en double, l'aventure s'est arrêtée pour la paire franco-chinoise Mladenovic-Zhang, éliminée dans le dernier carré par le duo Kichenok-Ostapenko 6-4-6-3. Je rappelle que chez les féminines, la finale en simple se disputera entre l'américaine Jessica Pegula et la Bélarusse Arina Sabalenka.
En cyclisme, Primoz Roglic remporte la 19e étape du Tour d'Italie.
Et le Tour d'Espagne, hein, toutes mes excuses, je vous ai donné une information erronée. C'est pas très loin, c'est le Tour d'Espagne, hein, la Vuelta évidemment qu'on suit en ce moment. Et le Slovène qui a réalisé donc une très bonne opération en prenant au passage le maillot rouge de leader à Ben O'Connor. Et ce, à 2 jours de l'arrivée, le Slovène a creusé un écart d'1 minute 54 secondes sur l'Australien de l'équipe Decathlon AG2R, la mondiale. Le meilleur Français au classement général pour le moment, c'est David Gaudu. Il est en 5e position. La 20e et avant-dernière étape de cette Vuelta. Le Tour d'Espagne sera à suivre à partir de 22h ce soir.
La Vuelta donc et non pas le Giro. Les sports mécaniques avec la suite des championnats du monde de rallye et de MotoGP.
Le rallye de Grèce tout d'abord et l'Estonien Ott Tänak qui est en tête du classement sur Hyundai à l'issue des 6 premières spéciales. Le Français Sébastien Ogier qui occupait la tête du classement a été victime d'un problème mécanique. Et puis en MotoGP au Grand Prix de Saint-Marin, l'Italien Francesco Bagnaia a dominé les essais libre. Meilleur chrono pour le pilote Ducati devant Marc Marquez et Jorge Martin. Fabio Quartararo, le Français, s'est classé 9e. Il se hisse donc directement en 2e session des qualifications, alors que l'autre tricolore, Juan Zarco, a réalisé le 15e temps.
Et puis ce sera un grand week-end pour le rugby, avec notamment la reprise du top 14.
Ouais, ça redémarre dès ce soir. L'élite du rugby national. Un match Bayonne-Perpignan pour ouvrir le bal à 23h30. Ce sera suivi de Clermont-Section Paloise, Castres, Racing 92 et Montpellier-Lyon. Toutes ces rencontres à partir d'1h30 du matin la nuit prochaine. À 6h ce dimanche, l'UBB accueillera le Stade Français. Lundi matin, on aura déjà droit à une confrontation La Rochelle-RC Toulon avant l'entrée en lice de Vannes, les Bretons promus en top 14 cette saison, qui feront face au redoutable Stade Toulousain. Et puis, ce soir et demain matin dans l'hémisphère sud, la 4e journée du Rugby Championship. Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, une nouvelle confrontation au sommet entre les Springboks et les All Blacks. Ce sera à partir de 2h du matin la nuit prochaine. Et puis demain, les Pumas argentins retrouveront les Wallabies australiens à partir de 6h.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Allez fou, c'est le 102.5.
On en vient au sport en Calédonie avec du football et la 3e journée du trophée Grand Nouméa.
Oui, suite et fin de la 3e journée, cet après-midi, 2 rencontres qui se joueront au Parc des Sports de Koutio. En ouverture à 14h, Gaïcha sera opposé à Magenta. Suivra ensuite à 15h45 le match entre Wedge et Melek. Et puis à noter que de son côté, la sélection calédonienne continue sa préparation en vue des qualifications à la Coupe du Monde. Et les joueurs de Johan Sidaner affronteront Tiga Sports cet après-midi au Stade Nouma Dele, un match qui se jouera à huis clos.
Il y a également du tennis et du basket ce week-end à Nouméa.
Ouais, le club de la 6e kilomètre qui organise un TMC, tournoi de tennis multichance aujourd'hui et demain. Tournoi simple, homme, réservé à la 4e série. 14 joueurs engagés, chacun disputera 4 matchs. La grande finale se disputera ce dimanche aux alentours de 15h. Du basket aussi sur les terrains de la 6e kilomètre avec 3 rencontres au programme ce week-end.
Il y a également au programme du Var.
Et la discipline fera sa grande reprise aujourd'hui, hein, privé des mondiaux qui avaient lieu il y a quelques semaines, évidemment en raison de la situation sur le territoire. Le championnat de Calédonie V1 aura lieu aujourd'hui au départ de Lansvata, départ de la course de 14 km à 9h ce matin. Quant à la course de 20 km, elle s'élancera aux environs de 10h30, 11h toujours au large de Lansvata.
Merci Mickaël Juneski. 7h29, on termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover,
aménagée.
Et on vous écoute pour les détails, Nicolas.
Alors, ce matin, sur l'ouest, le soleil sera bien présent, ailleurs alternance entre nuages et éclaircies, avec parfois quelques gouttes sur la façade est où les nuages seront plus denses. Sur le nord-est et Belep, l'alizé d'est-sud-est atteindra 20 à 25 nœuds avec des rafales jusqu'à 35 nœuds. Sur les autres régions, il sera plutôt compris entre 15 et 20 nœuds avec quelques rafales à 30 nœuds ou loyautés. Cet après-midi, sur l'ouest, le temps restera ensoleillé malgré quelques débordements nuageux issus de la chaîne sur le nord-ouest et près de la pointe nord. Ailleurs, les nuages bas se morcelleront et laisseront l'avantage au soleil et le temps sera sec. Sur la pointe nord-est et le sud-ouest, le vent d'est-sud-est atteindra 20 à 25 nœuds avec des rafales jusqu'à 35 nœuds. Sur les autres régions, il soufflera à 20 nœuds environ et plutôt autour de 15 nœuds vers l'île des Pins. Les températures maximales seront stationnaires entre 22 et 25 degrés, localement sur l'ouest jusqu'à 27 degrés, Gilles.